With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Notre prochaine invitée est grande reporter et elle a couvert des situations de crise extrêmement dangereuses dans le monde entier. Donc forcément, son métier l'a amené à vivre des expériences que peu d'entre nous vivront. Et quand je lui ai proposé de venir sur la scène de la veillée pour parler de son histoire, elle savait pas encore ce qu'elle allait raconter. Et pour tout vous dire, il y a encore une heure, je savais pas non plus ce qu'elle allait raconter. Mais ce que je savais, c'est que ce serait forcément un témoignage exceptionnel. Merci d'applaudir très fort, Camille.
Merci. Bonsoir tout le monde. Donc oui, je suis journaliste et mon métier, c'est de parcourir un peu le monde pour récolter des témoignages et essayer de les transmettre au public. Là, je reviens tout juste d'Ukraine où j'étais la semaine dernière, où j'ai passé 15 jours pour essayer de couvrir la situation sur place. Et donc ce métier, c'est une passion, hein. C'est vraiment un rêve de petite fille que j'ai pu réaliser très tôt. Tout a commencé en fait quand j'avais 21 ans. J'étais au Liban et je continuais à apprendre l'arabe et l'anglais. Je venais juste de terminer mes études de journalisme. Et à l'époque, c'était la guerre en Syrie. Et donc, on voyait beaucoup d'images sur les réseaux sociaux qui étaient diffusées, d'images de téléphones portables qui étaient de très mauvaise qualité à l'époque. On voyait des bombardements, on voyait des combats, on voyait beaucoup de choses, mais j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui se passait réellement sur place. Et c'est vraiment là où j'ai eu un déclic et j'ai eu une envie viscérale d'aller voir par moi-même ce qui s'y passait. Et donc j'étais toute jeune, hein, j'ai réussi à récolter $400 et je suis partie seule, sans médias, j'étais indépendante à l'époque. Et donc je suis arrivée à Alep. Donc Alep, à l'époque, la ville était séparée en deux. Hein. Il y avait un côté qui était tenu par l'armée de Bachar el-Assad et l'autre qui était tenu par l'armée syrienne libre. Et donc, première question, je me dis avant d'arriver dans cette ville, comment je vais réagir en fait quand il va commencer à avoir des bombardements, quand il va commencer à avoir des tirs, comment je vais réagir, est-ce que je vais avoir assez de sang-froid? Et donc, j'arrive dans cette ville, et là, c'est très intense parce qu'évidemment, il y a des bombardements tous les jours, hein, on voit des morts très régulièrement, on est proche des combats, et je me rends compte en fait que j'ai plutôt pas mal de sang-froid. Donc, je ne vais pas dire que je n'ai pas peur, hein, ça serait un mensonge. Tout le monde a peur dans ce genre de situation. Évidemment, ça serait complètement stupide de ne pas avoir peur quand c'est la guerre. Mais en tout cas, j'arrive à prendre les bonnes décisions, j'arrive à travailler et surtout, je me sens utile. Et donc, là, d'un coup, j'ai l'impression de trouver un sens à ma vie, d'aller voir un peu toutes ces personnes qui souffrent et d'essayer de leur donner une voix. Et donc, je passe 2 mois à Alep, hein, je travaille pour plusieurs médias, il se passe énormément de choses, il y a 3 journalistes qui se font kidnapper, qui vivaient avec moi. Enfin, je vous donne pas énormément de détails parce que c'est pas vraiment l'histoire que je vais vous raconter, mais quand je rentre à Paris, en fait, je diffuse un documentaire sur France 5, donc en Syrie, et très rapidement, je pars en Libye, hein, j'attends plusieurs semaines là-bas pour pouvoir passer sur un bateau avec des clandestins, 500 clandestins pour traverser la Méditerranée. Tout s'enchaîne, je commence à prendre de plus en plus de risques, les missions s'enchaînent, je pars la même année en Centrafrique où je me retrouve au milieu de plusieurs coups d'État, où je pars en brousse avec des rebelles et j'ai l'impression de vivre un mini Rwanda. Tout est intense et va très très vite et je suis portée par cette envie de faire de l'information et je me dis qu'au moins on pourra pas dire qu'on ne savait pas. Il y a cette chose où tout s'enchaîne, on a toujours envie d'aller plus loin, de prendre plus de risques et d'avoir la meilleure image, le témoignage le plus fort qui racontera le mieux ce qui se passe sur le terrain. Et pendant 8 ans, j'enchaîne les voyages comme ça, en Afghanistan, je couvre la guerre en Yémen, je passe presque 1 an par intermittence en Irak pour couvrir la bataille de Mossoul. Et j'ai l'impression d'assembler, à travers tous les reportages que je fais, je rassemble un petit puzzle dans ma tête, en fait, des pièces de puzzle pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le monde. Mais quand je rentre à Paris, j'ai toujours un peu la même impression, c'est qu'il me manque quelque chose. il y a des pièces de puzzle qui manquent et j'arrive pas vraiment à savoir lesquelles. Et donc, à l'époque, j'habitais dans le 18e, dans une colocation au nord de Paris. Et j'essayais de comprendre un petit peu qu'est-ce qui manquait, quelles étaient les histoires que j'arrivais pas à comprendre. Et en me baladant, en fait, je me rends compte qu'à force de couvrir tous ces conflits et ces situations extrêmes, en fait, je n'arrivais plus à regarder ce qu'il y avait vraiment autour de moi, chez moi. Je regardais plus les gens autour de moi, ni les souffrances des gens qui avaient en bas de chez moi, en fait, tout simplement. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là, et c'est à la même période que j'ai découvert la colline du Crac, qui est un lieu qui est à l'époque Porte de la Chapelle. C'est un immense terrain vague qui existe depuis une dizaine d'années, où il y a une centaine de tentes à peu près, où les consommateurs de crack, hein, qui est donc une drogue du pauvre, comme on l'appelle, hein, c'est un mélange c'est des résidus de cocaïne avec du bicarbonate de soude, donc c'est vraiment une extrêmement grosse merde qui rend accro. Et donc, je vois ces personnes et je me dis qu'en fait, c'est un monde parallèle qui est juste en bas de chez moi et que personne ne regarde, tout le monde détourne le regard même, qui fait peur à tout le monde et dont personne ne s'intéresse. Et là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, je décide de prendre une tente et de m'installer sur place pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce monde parallèle juste à côté de chez nous. Et je suis très étonnée parce qu'en général, les gens me disaient tous « Fais très attention, les consommateurs de crack sont très dangereux, ils ont des comportements très agressifs quand ils sont en manque. » Donc, j'avais mis ma caméra dans mon sac à dos et je suis rentrée comme une consommatrice. Et j'ai décidé d'installer ma tente quelque part. Et en fait, étonnamment, j'ai été très, très bien accueillie. Il y a tout de suite des gens qui sont venus me voir en me disant qu'il y avait un terrain plat où je pouvais mettre ma tente. Ils m'ont aidé à enlever les détritus parce que sur la colline, il y a beaucoup de détritus. Il y a des rats. C'est un endroit quand même qui est assez glauque. Et les gens, en fait, étaient super sympas. Ils me ramenaient des matelas, ils me ramenaient du matériel pour ma tente pour que je puisse être un peu confortable. Et une fois le tout installé, je m'installe près de ma tente et là je vois une jeune fille arriver en titubant avec du maquillage qui coulait, qui dégoulinait et elle vient me parler. Et là je rencontre Laurie qui a 18 ans et en fait ça fait 3-4 ans qu'elle est sur la colline déjà. Elle est accro au crack et elle a fugué de ses foyers, elle a une enfance très très difficile. Et on commence à passer nos soirées ensemble et je lui explique que je fais un documentaire. Et elle accepte de témoigner, d'être filmée, que je la filme dans son quotidien. Et donc, on passe plusieurs jours ensemble comme ça. Alors, il faut savoir que Laurie, elle se prostituait pour se payer son crack. Et après plusieurs semaines à tourner sur cette colline, je me dis que j'ai mon documentaire en boîte. Et la dernière image, Laurie est en train de fumer dans sa pipe à crack. Et là, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qui va arriver d'elle, quoi. Et je diffuse ce documentaire. Et là, je suis très, très, très surprise des retours des gens. Alors, je diffuse ça sur Brut, sur le média dans lequel je suis toujours. Donc, on a beaucoup de retours sur Internet. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que le documentaire que je diffuse a un impact dans le réel. Et là, je vois des gens qui commencent à se mobiliser pour aller voir les gens sur la colline, pour essayer de les aider, pour essayer de les loger. Et au bout de quelques jours, Laurie m'appelle et me dit qu'en fait, il y a des amis à elle, d'anciens amis, qui ont vu le documentaire et qui sont venus la chercher sur la colline pour la ramener chez sa mère. Donc, je décide d'aller revoir Laurie en Belgique, chez sa mère. Et là, elle a complètement arrêté le crack, elle s'est complètement sevrée. Elle me dit que le documentaire lui a fait un choc. Elle n'avait pas imaginé à quel point elle était comme ça. En fait, elle a choqué de se voir telle qu'elle était. Et donc, c'est une super histoire où je me rends compte que mon documentaire pouvait avoir de l'impact en fait, dans le réel directement. Donc je fais un deuxième documentaire avec elle. En plus, une maison d'édition m'appelle pour publier Laurie. Et la morale en fait, de cette histoire, c'est que Laurie, elle m'a vraiment appris un truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver des histoires complètement dingues, qu'il ne faut surtout pas hiérarchiser les malheurs des gens ni la douleur des gens, parce que il y a des malheurs évidemment à l'autre bout du monde, en Syrie, en Irak, mais il y a des gens en bas de chez nous aussi qui méritent tout autant d'attention. Et ça me paraissait hyper important de vous parler de ça en ce moment, parce que je reviens d'Ukraine, hein, je continue toujours à faire des documentaires. J'ai fait un documentaire en Colombie qui va être bientôt diffusé sur une guérilla armée. Et j'adore couvrir ces terrains-là. Mais je pense que c'est important aussi de temps en temps de lever les yeux de nos écrans sur des conflits très lointains, sur des problèmes très lointains pour prendre 5 minutes pour voir ce qu'il y a en bas de chez nous aussi. Parce que je pense que c'est tout aussi important. Donc voilà, ça a été la petite leçon de vie que la colline du crack m'a apprise. Merci beaucoup.